Bonjour messieurs, dames, bonne fin de semaine à toutes et à tous. Les titres de ce nouveau numéro de la rétrospective de l'actualité économique sur Radio Okapi. La baisse de 5% du prix de carburant décidée le week-end dernier par le ministre de l'économie a pris effet depuis lundi à Kinshasa et aussi bien dans quelques villes de la province. Les réactions des consommateurs de ces produits sont allées quasiment dans le même sens. Cette baisse n'est pas proportionnelle à celle du prix du baril sur le marché international. La campagne Made in DRC, c'est celle menée par le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, veut encourager les Congolais à consommer les produits locaux pour y parvenir à moindre coût. Les industriels le visités ont plaidé pour une fiscalité attrayante et la concurrence déloyale, parfois encouragée par l'État lui-même. Voilà pour les titres qui seront commentés et analysés dans ce studio par Israël Moutala. Il est journaliste et analyste. Israël, bonjour et bienvenue à Panorama Économique.
Merci, bonjour.
Et dans les matières premières, nous allons parler de la traçabilité des minerais, de l'or et de la cassitérite qui a connu une grande performance en 2014 au sud Kivu dans les territoires d'Uvira et de Fizi. La production de l'or, par exemple, est passée de 33 000 grammes à 107 000 grammes en l'espace d'une seule année. Merci et bienvenue à toutes et à tous.
Panorama économique, le dossier.
La synthèse de l'actualité économique de la semaine dans ce dossier avant de retrouver notre invité. Les prix des produits pétroliers ont baissé de 85 francs congolais. Cette nouvelle structure des prix est entrée en application depuis lundi.
Alors c'est une baisse qui n'a pas assez d'impact comme vous allez le suivre dans ce reportage. Babel Pongo, Maxi Mango qui avait fait la ronde dans quelques stations-service de la ville nous en dit plus.
Les quelques stations d'essence visitées ce matin à Kinshasa, à la place Victoire, au croisement des avenues Asosa et Victoire, tout comme à la RTNC, sur l'avenue des Libérations, affichaient 1440 francs congolais pour le litre d'essence. Il coûtait jusqu'au hier 1525 francs. Celui du gasoil est passé de 1515 à 1430 francs actuellement. À notre passage à ces stations, ce n'était pas encore l'affluence, mais au moins il y a un peu plus de circulation que la semaine dernière, affirmait-on. Cette baisse est saluée par certains conducteurs, mais n'hésite pas à souhaiter un peu plus de rabais. Les pompistes disent vendre comme d'habitude et que jusque-là, la baisse n'a pas vraiment un impact sur la vente.
C'est à la fin de la journée que nous saurons si on a vendu plus ou moins. Mais par rapport à la vente, les clients achètent comme d'habitude. Il y a beaucoup de clients qui ne savent pas que le prix a baissé. Ils apprennent seulement à la station. Ils nous donnent deux fois 15 500 ou 15 300. Pour 10 litres. Quand ils me donnent comme ça, on le sert par rapport à ce qu'ils nous ont donné.
Notez qu'à l'annonce de cette révision à la baisse du prix du carburant, le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo, a annoncé aux transporteurs privés la nécessité de suivre ce mouvement en revoyant à la baisse le tarif du transport en commun. Il a promis de demander aux autorités de toutes les provinces de saisir leur commission tarifaire du secteur de transport en ce sens.
La première réaction était celle de l'association de 32 chauffeurs du Congo, la SECO, qui ne partageait pas cet avis du gouvernement, du ministre de l'économie, puisque la baisse n'a pas été significative pour que les prix du transport en commun suivent ce même mouvement. Et une autre réaction, cette nouvelle structure des prix de carburant s'est différemment appliquée dans les stations de la ville de Bukavu, sud Kivu. Les prix d'un litre d'essence a varié d'une station à une autre, même si le comité de club de pétroliers reconnaît officiellement le prix de 1500 francs congolais le litre. Le club de pétroliers du Sud Kivu a évoqué l'existence d'une multitude de charges qui pèsent sur les opérateurs pétroliers de la province. Parmi les conséquences immédiates, plusieurs revendeurs préfèrent aller s'approvisionner dans les pays voisins où le litre de carburant coûte moins cher qu'à Bukavu et à Uvira. Le porte-parole du club de pétroliers pétrolier du Sud-Kivu, Emmanuel Ndakala, a demandé au ministre de l'économie d'adapter la nouvelle structure au prix du baril sur le marché mondial.
Non loin de là, à Goma, au Nord-Kivu, les opérateurs regroupés au sein de l'association de pétroliers du Nord-Kivu, APNOKI, estiment que cette réduction n'est pas proportionnelle au cours actuel du pétrole sur les marchés mondiaux. Toutefois, ils disaient attendre la notification officielle du ministre, laquelle ne leur a été pas encore parvenue.
En tout cas, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à cette baisse du prix du carburant. François, une baisse qui n'est pas significative, mais nous allons y revenir dans les commentaires et analyses. Le temps de prendre un autre dossier de la semaine, Made in DRC, Made in RDC. C'est la campagne lancée par le ministre de l'Industrie pour inciter les Congolais à consommer les produits locaux. Et Germain Kambinga a voulu en savoir plus dans une série de visites organisées dans quelques industries de la capitale.
Un autre objectif du ministre de l'Industrie est celui de témoigner aux industriels le soutien et l'accompagnement du gouvernement congolais. Partout où il est passé, le nouveau ministre de l'Industrie n'a entendu que deux doléances majeures, à savoir concurrence déloyale parfois favorisée par l'État congolais lui-même et l'asphyxie fiscale. Innocent Olinga pour les détails.
Des Pelustor en passant par Dispromalt, UPAC, Fameco, Marsavco et Tissakine, du moins jusqu'à la visitée par le ministre Germain Kambinga dans le cadre de sa campagne Made in Congo, les propriétaires de ces firmes déplorent la concurrence déloyale. Ils en font porter la responsabilité à l'État congolais à travers ces exonérations incontrôlées accordées à certains opérateurs économiques, mais surtout aux entreprises chinoises qui en abusent beaucoup. Souvent, dénoncent-ils, la quantité commandée est exonérée est supérieure à celle réellement utilisée pour les travaux d'intérêt public. Le surplus est donc déversé sur le marché sans aucun paiement de taxes ni d'impôts. De même pour les produits en provenance d'Angola qui entrent par la localité de Lufu au Bas-Congo sans aucun frais de douane. Quant à l'asphyxie fiscale, c'est la surtaxation qui est décriée. Et Germain Kambinga en est conscient.
Nous allons prendre en compte cela. Les instructions très fermes du Premier ministre ont été données pour l'élargissement d'une coopération mutuellement avantageuse entre les opérateurs économiques à travers le cadre de concertation économique et les différents ministères concernés. Donc rassurez-vous, de ce point de vue, vous allez constater très rapidement une évolution des choses.
Une évolution des choses attendue vivement par les industriels qui l'estiment importante pour influer sur les coûts de production et ainsi arriver à la baisse des prix de leurs produits fabriqués.
Innocent Olinga, alors cette tournée a conduit Germain Kambinga jeudi dans les installations de la Bralima. La brassicole s'est plaint aussi de l'asphyxie fiscale. Et à la Bralima aussi, comme ailleurs, le ministre a promis d'être le porte-parole des opérateurs économiques auprès des autres ministres.
Ainsi dit, François, nous allons retrouver notre invité après cette synthèse de la semaine. L'essentiel, c'était la baisse du prix du carburant et cette campagne du ministre de l'Industrie qui a fait la ronde de quelques industries de la capitale. Espérons qu'il va étendre cette visite dans les industries qui sont dans l'arrière-pays. Alors, notre invité, Israël Moutala, il est journaliste, il est analyste. Israël, vous avez été aussi au parfum de cette actualité de la semaine. S'il faut placer un commentaire sur le premier sujet, la baisse du prix du carburant. Vous, personnellement, comment vous l'avez accueilli cette baisse?
Bon, je me suis situé d'une part du côté du gouvernement et d'autre part du côté du consommateur.
Vous l'expliquez comment?
Donc, du côté du gouvernement, le gouvernement est soucieux d'une chose, c'est la stabilité du cadre macroéconomique. Donc, pour le gouvernement, la baisse du prix du baril sur le marché international était vraiment une aubaine pour essayer encore plus de renflouer ses caisses. Donc, cette baisse est apparue comme un impôt indirect que l'État a perçu pour justement se refinancer ou financer pour envisager de refinancer encore de manière substantielle ce projet d'infrastructure, projet social, ces projets sociaux. Mais du côté justement des consommateurs, on aurait voulu justement que cette baisse soit plus ou moins sensible, qu'elle soit au moins proportionnelle ou du moins dans les mêmes proportions ou presque que la baisse du baril sur le prix sur le marché international. Donc il a baissé de plus de 50%. On aurait voulu que le prix à la pompe soit peut-être de 25 ou de 15 ou même, enfin, mais 5% c'est quand même insignifiant. Mais je pense que le gouvernement a baissé le 5%, c'est un élément plutôt psychologique qu'économique. Ça veut dire que vu la tension qu'il y avait à Kinshasa et vu justement le mécontentement de la population qui remarquait que sur le marché international, le prix ne faisait que baisser et que entre temps, par le passé, quand le prix fléchissait, ne serait-ce que de manière minime au niveau de la hausse, ça se faisait répercuter presque dans les semaines ou dans les 2 ou 3 semaines qui suivaient. Mais là, il y a eu une baisse très soutenue, très régulière, et le gouvernement a mis beaucoup de temps pour faire répercuter cette baisse. Bien qu'il n'a pas répercuté dans les proportions voulues par les consommateurs, cette baisse a pour moi un effet plutôt psychologique. Le gouvernement voulait se libérer de cette pression populaire des consommateurs qui estimait que c'était injuste que le gouvernement ne puisse pas répercuter à la baisse, parce qu'il répercute souvent à la hausse quand il y a variation de prix sur le marché du pétrole. Mais encore une fois, un gouvernement responsable et soucieux justement de la stabilité du cadre macroéconomique. Donc le prix du pétrole, qui est une matière énergétique essentielle, une matière stratégique, on ne peut pas s'amuser avec. Voilà pourquoi la fixation de ce prix est administrée par l'État à travers le ministère de l'économie en concertation avec les différents partenaires sociaux. Dans la structure du prix du carburant, une bonne partie de ce prix là-bas est constituée par les taxes. Donc c'était qu'une faible proportion qui revient justement aux pétroliers. Donc la majeure partie de la fixation du prix du carburant, elle est constituée des taxes. Et donc la baisse a vraiment profité aux finances de l'État. Mais comme on l'a dit encore, le pétrole baisse. Le prix du cuivre aussi a baissé entre temps. Il fallait que le gouvernement soit vraiment vigilant pour que la stabilité du cadre macroéconomique soit maintenue. S'il répercute trop le prix à la baisse, il aura moins de ressources.
Et il faut savoir aussi que la RDC est exportatrice de plus ou moins 25 000 barils le jour de pétrole qu'ils ont produit à Moanda.
C'est vrai.
Et sûrement avec cette baisse au niveau international, les recettes, donc, les revenus du pétrole aussi sont en baisse.
De ce côté-là, le revenu baisse. Mais je ne suis pas livré à cet exercice. Pour savoir, nous sommes d'abord importateurs nets de carburant.
Oui.
Ça veut dire que globalement,
nos exportations sont plus de loin inférieures aux importations.
Tout à fait. Ce qui fait que la baisse, en principe, doit profiter à l'économie congolaise. Parce qu'on va importer à moins cher les produits pétroliers dont dépendent notre industrie, notre mode de transport et plusieurs autres activités économiques connexes. Et donc, le gouvernement devait avoir l'œil et sur le prix du carburant sur le marché international et sur le prix du cuivre, qui est le principal baromètre de notre économie. Donc quand le prix du carburant baissait, le prix du cuivre, qui a quitté plus de 7500,
est
tombé jusqu'à 5560 la semaine passée. Et donc il fallait vraiment être vigilant et jouer avec les deux, parce que plus on allait rabaisser le prix à la pompe, ça allait se faire ressentir sur le cadre macroéconomique avec tous les désordres qu'on allait connaître par rapport à l'inflation, par rapport à la hausse de prix. Et donc, il fallait vraiment être prudent.
Et le deuxième dossier, c'était cette visite du ministre de l'Industrie. Il veut encourager les entreprises, les industries congolaises à mettre sur le marché des produits locaux. Et il veut encourager les Congolais à consommer les produits de leur pays. Mais il se fait les deux plaintes des industries. C'est l'asphyxie fiscale et aussi la concurrence déloyale qui est sur le marché congolais.
Le ministre de l'Industrie, Germain Kambinga, a de la suite dans les idées. Ça veut dire qu'on s'est vu, qu'on a vu tout de suite qu'il s'est mis au travail. Il a une idée géniale, celle d'inciter les compatriotes que nous sommes et tous les nationaux ici à consommer congolais, parce qu'en consommant congolais, on va justement booster notre économie, on va amener les entreprises installées en RDC à atteindre leur capacité de production, parce que la plupart ne l'ont pas atteinte pour plusieurs raisons: une faible consommation, la faiblesse des infrastructures, parce que le marché intérieur n'est pas unifié et tout ça. Mais il y avait d'abord une étape à faire, c'est l'étape psychologique, être fier de consommer congolais. Bon, c'est une excellente chose, et étant donné que la plupart des produits produits par des entreprises ou des personnalités congolaises ont la même qualité que celles que produites par les étrangers, et même d'autres produits congolais produits en
qualité inférieure
sont supérieurs à ceux produits en Chine ou dans d'autres pays.
Mais le Congolais ne sait pas se rendre compte que le produit local est de bonne qualité. Il préfèrent souvent se livrer à des produits étrangers importés.
Donc, il faudrait vraiment que, qu'on inscrive la campagne du ministre dans la durée, que le label Made in Congo soit l'appropriation de tous. Et donc moi je pense que cette idée est vraiment géniale et qu'il faut l'encourager parce qu'on ne peut pas devenir souverainement indépendant, politiquement indépendant, économiquement indépendant si nous ne consommons pas nos propres produits. Donc c'est d'abord une question de mentalité. Et dommage, bon, je pense que c'est parce qu'ils sont au sein d'un gouvernement, il y a des questions qui échappent, qui ne relèvent pas directement de la compétence du ministre de l'Industrie. Donc c'est des questions transversales, des questions de la fiscalité, des questions de la surtaxation, des questions de la concurrence déloyale. Donc c'est des matières transversales, des matières transversales
qui intéressent doivent, plusieurs ministères qui doivent entrer en jeu.
Le finance, bref. Et voilà, donc je pense que tous les autres ministères
vont converger,
vont prêter main forte au ministre de l'Industrie pour qu'il arrive justement à asseoir cette belle idée qui est de faire en sorte que les Congolais que nous sommes, les nationaux que nous sommes, consommions d'abord congolais. Et si cette consommation, si les produits et les services ne sont pas fournis par les Congolais, alors nous pouvons recourir aux produits importés et tout ça.
Alors qu'est-ce qu'il faut dire? Vous avez suivi ce reportage de Innocent où les industriels ont dit au ministre il y a des produits qui entrent par Loufou sans payer aucun frais de douane et puis ces produits sont sur le marché au même prix que le produit congolais et deux fois ce sont ces produits-là qui sont prisés par les Congolais. De l'autre côté, il y a des Congolais qui se plaignent du fait que à Loufou, on leur fait payer des frais de taxes. Pour eux, ils estiment qu'on ne pouvait pas payer les frais de douane sur le territoire congolais à Loufou lorsque le produit entre. Comment vous percevez ce fait?
Je vais vous faire une confidence. Un de mes frères, cousins, fait du commerce entre Kinshasa et Loufou. Et il m'a apporté un sac de riz et il m'a apporté un sac de foufou, je crois, de 10 kilos et tout ça.
Importé de l'Angola.
Importé de l'Angola. Je lui ai dit clairement que j'étais embêté. Mais parce que moi je préfère acheter le maïs produit au Bandundu, le maïs produit au Kasaï ou bien produit au Bas-Congo et tout ça pour stimuler la consommation intérieure et pour pousser tout ce que font le paysan dans leur pays à être consommé ici. Donc c'est pour moi une question de patriotisme économique. Mais entre-temps, lui aussi c'est son gagne-pain, donc je voulais aussi l'aider à avoir de revenus pour sa survie. Mais le choix est clair. Il appartient ici à l'État, justement, de ne pas interdire le commerce transfrontalier avec l'Angola par la voie de Loufou. Mm-hmm. Mais si l'État veut favoriser la consommation intérieure, il n'y a que deux façons de le faire. C'est justement le levier douanier. Donc, qu'il y ait une taxation claire et justement décourageante. Mm-hmm. Ça veut dire que le produit acheté de l'Angola doit absolument coûter plus cher que celui qui est produit sur place. Et là, on va y arriver en taxant de manière confiscatoire,
assez sévère.
De manière confiscatoire, les produits qui viennent de Loufou et qui font concurrence aux produits made in DRC. Et donc là, je suis très clair, il faudrait absolument qu'on puisse réglementer ce commerce pour qu'il ne fasse pas échec à l'industrie nationale, à l'agriculture paysanne ou industrielle du Congo.
Espérons que nous pourrons avoir un jour le ministre de l'Industrie dans ses studios pour porter un peu ce message aux Congolais, pour les encourager à produire, à consommer les produits fabriqués en RDC.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance, reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Nous allons à présent parcourir les autres informations de la semaine. En bref, lundi 26 janvier, c'était la journée mondiale des douanes et à l'occasion, la direction générale des douanes Axis a organisé dans l'avant-midi ici à Kinshasa une journée porte ouverte dont le thème était la gestion coordonnée des frontières. Il s'en est suivi dans les après-midi la prestation de serment de quelques cadres en qualité d'officier de police judiciaire. Mais avant cette journée mondiale de la douane, la DGDA avait
organisé à Kinshasa la 13e réunion du comité des experts en vue de préparer la 20e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique occidentale et centrale de l'Organisation mondiale des douanes prévue à Abuja au mois de mars prochain.
Voilà, nous avons parlé mardi de la reprise normale des activités commerciales dans la ville de Matadi. Nous sommes dans le Bas-Congo. Tout le commerce et surtout les magasins de ressortissants chinois ont ouvert leurs portes après 5 jours de fermeture suite aux agitations qui ont eu lieu dans la ville de Kinshasa ainsi que dans d'autres coins de la province du Bas-Congo. Un motif de satisfaction pour l'association de consommateurs indépendants de la ville de Matadi.
Mercredi, c'était la matinée fiscale au siège de la Fédération des entreprises du Congo à Kinshasa. Sur invitation de la Fédération des entreprises du Congo, le directeur général de la DGI est venu donner la lumière sur les innovations apportées dans la nouvelle loi de finances pour l'exercice 2015, votée il y a quelques mois au Parlement et promulguée par le chef de l'État. Parmi les innovations qu'apporte cette loi financière pour l'exercice 2015, la FEC a estimé que 3 ont été salutaires et les autres pourraient faire l'objet d'amendements avant de plaider pour un élargissement de l'assiette fiscale. Et puisque la loi est déjà promulguée, le DG de la DGI a expliqué à ses partenaires le bien fondé des innovations apportées dans la loi de finances 2015. Elles sont plutôt dissuasives pour inciter les assujettis à toujours souscrire et faire des bonnes déclarations d'impôts, avait dit Dieudonné Lokadi.
Jeudi, nous avions parlé de l'inspecteur de l'agriculture, pêche et l'élevage du Olomami au Katanga qui plaide pour la réhabilitation de la route qui va de Kabondo Dianda à Malimbankulu en passant par Kikundja. Dans une adresse à Radio Kapi, Evariste Kazembe a indiqué que depuis 2 semaines, ce tronçon routier n'est plus praticable suite à l'effondrement de 3 ponts construits sur cette route longue de 450 km du chef-lieu district du Olomami. Conséquence, ajoute l'inspecteur, plusieurs tonnes de récoltes de la saison culturelle 2013-2014 sont bloquées. La population ne sait plus à quel sein se vouer, d'où le SOS lancé aux autorités du pays pour qu'une solution soit trouvée.
Et cet appel du DG de la DGI aux contribuables relevant de la gestion de centres d'impôts synthétiques, il s'agit de toutes les petites entreprises dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 10 millions et 80 millions de francs congolais. La DGI leur demandait de s'acquitter de l'acompte de l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice fiscal 2015 portant sur les revenus de l'exercice comptable 2014. Ce délai expire aujourd'hui samedi 31 janvier. Il leur était demandé de payer leur impôt au plus tard vendredi 30 du fait que le 31 aujourd'hui donc plusieurs banques n'ouvrent presque pas ou travaillent pour une demi-journée. Et il a insisté pour dire que tous les paiements qui interviendront lundi seront hors délai et seront donc frappés de pénalités.
Nous allons revenir au Katanga pour terminer, où nous avons appris jeudi que le gouvernement provincial a débloqué la somme de 225 000 dollars américains pour la réhabilitation du pont de Luizi dans le district du Tanganyika. Ce pont est situé à plus ou moins 70 km de Kabalo sur la route de Kalemie-Kabalo. Ces travaux ont été confiés à l'office des routes. Il s'est trouvé que parmi les organisations qui ont plaidé pour cette réhabilitation, l'une d'elles estime que cette somme est insignifiante. À l'office des routes, l'on invite plutôt à attendre et voir.
Panorama économique, matières premières.
Les matières premières pour saluer les performances de la traçabilité Sud-Kivu et pour l'année 2014, la production de minerais de l'or et de la trace de la cassitérite est en hausse. On signale pour le sel minéré d'or, la production est passée de 33 000 grammes à 107 000 grammes à l'espace d'une année. En plus, 137 tonnes de cassitérite ont été produites en 2014 dans le territoire. L'évaluation des activités du service de mine a été effectuée au terme d'un atelier de 3 jours clôturé lundi à Ouvira. Nous retrouvons sur place Fiston Goma pour les détails.
30 agents du service de mines, le chef d'antenne et des cellules venus d'Ouvir et de Fizi ont pris part à cet atelier d'évaluation. Pour les responsables du CESC, Centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, cette performance fait suite à la rigueur au travail et à une forte sensibilisation des creuseurs et négociants d'or sur l'importance de faire enregistrer leurs produits en vue de faciliter la traçabilité. Rukumuza Modeste.
C'est grâce à ces outils que nous essayons d'utiliser depuis l'extraction jusqu'au niveau du comptoir. C'est un processus. Nous, on a commencé depuis 2013. La production était trop bas. Mais avec beaucoup de missions de sensibilisation sur le terrain, de vulgarisation de lois, nous sommes quand même parvenus à aller petit à petit.
Cet exploit n'a pas épargné les agences étatiques de mines de plusieurs difficultés sur le terrain. Les chefs d'antenne et des cellules venus de Mississi, par exemple, ont dénoncé des cas d'insécurité dont sont victimes les négociants et les responsables des puits d'or de la part des hommes armés. Ces derniers s'ingèrent dans la gestion du secteur minier et empêchent la bonne prestation des agents du service de tutelle. Ajouté à cela, le trafic d'influence des autorités qui facilitent la fraude et la contrebande dans la région des Fizi. Le chef de bureau du service des mines a insisté quant à lui sur la rigueur dans la traçabilité. 30 agents du service de mines, le chef d'antenne et des cellules venus d'Ouvir et de Fizi ont pris part à cet atelier d'évaluation.
Fiston Komama Nyabala, bon week-end à Ouvira et dans tout le sud Kivu. Et ce sera la fin de Panorama économique. Mais avant de terminer, nous allons retrouver notre invité, Israël Moutala. Israël, vous avez de bonnes connaissances en ce qui concerne le secteur des mines de la RDC. Voilà, l'or et la cassitérite avec un peu de rigueur dans la traçabilité. La production qui commence à remonter dans deux territoires seulement, on est passé de 33 000 grammes à 107 000 grammes. C'est déjà une bonne chose.
C'est une excellente chose parce que l'on sait que tout l'Est de la République est miné dans son secteur de ressources naturelles par la fraude et la corruption. Mmh. Et que la meilleure façon justement d'accroître notre prospérité collective, c'est d'assurer une traçabilité de ces ressources naturelles là-bas. Mais la grande clé, c'était justement ce que tous les pays de la sous-région de Grand Lac qui avait souscrit à l'accord de Lusaka sur la traçabilité des ressources naturelles puissent publier de manière régulière les statistiques minières par rapport à l'or, la cassitérite, l'étain, tout ça, pour que l'on voie qui produit quoi et tout ça. On saura par ces productions, par ces statistiques là-bas que tel pays n'a pas la capacité de produire une telle quantité et on verra de quel côté se situe la fraude. Mais il faut dire que nous-mêmes nous avons fauté parce que nous n'avons pas publié de manière régulière les statistiques. Donc le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le reste des autres pays aussi n'ont pas publié leurs statistiques. Mais il faut encourager absolument que tous les processus de traçabilité, que ce soit l'ITRI ou d'autres mécanismes, puissent justement s'étendre sur toute la chaîne de ressources naturelles stanifères de l'Est pour accroître, pour canaliser les ressources, c'est-à-dire du puits jusqu'au comptoir, jusqu'à l'exportation. Et la communauté internationale doit nous aider en ce sens que pour les personnes qui ont les ressources naturelles mais qui veulent les exporter et qui n'ont pas le certificat qui ne trouvent pas d'acheteurs. Or, il se fait que quand ça passe par les pays voisins, ça trouve des acheteurs. C'est ça le problème.
Même le certificat de la CIRGL, on a comme l'impression qu'on n'en tient pas compte.
Tout à fait. D'abord, plusieurs négociants, plusieurs n'étaient même pas au courant et tout ça. Il fallait mettre ça en place. Je crois que ça a été mis en place que l'année passée. Il fallait vulgariser et tout. Et il y a beaucoup de problèmes. Mais le problème, c'est que est-ce que sans ce certificat là-bas, peut-on ou pas vendre ces matières précieuses? C'est ça la question.
Et je pense qu'une autre actualité qui concerne le mine, et puisque nous parlons des mines, nous parlons de l'or, il y a aussi Kibali Gold qui est un grand projet dans la province orientale qui a présenté le bilan. François, tu étais là
avec Kibali Gold. Kibali projette 600 000 onces d'or pour cette année. Et déjà, c'est quelque chose, mais s'inquiète de ce qu'il y a par rapport au code minier.
Le code minier n'est pas encore trop incitatif.
Oui, tout à fait. Les craintes de Kibali se focalisent sur la reformulation du code minier. Pour Kibali, il est clairement établi que aujourd'hui, on a vu que le cours de l'or a baissé sensiblement. Il n'est plus à 1600, 1800. Il avait même frôlé à une époque 2000. Aujourd'hui, il est à 900 ou à moins de 900. Et alors Kibali dit que voilà, la rentabilité du secteur pose problème. Et donc si on doit renforcer le système taxatoire, le système fiscal, ça va
étouffer l'activité.
Ça va étouffer l'activité, ça ne va pas attirer de nouveaux investisseurs, mais ça va tuer l'investissement. Et donc, c'est le message que Kibal veut faire passer. Un autre message que Kibal veut faire passer, c'est la restitution de sa TVA, qui, dit-il, s'élève aujourd'hui à plus de 100 millions de dollars, ce qui est énorme. Ils pensent qu'ils vont trouver un accord d'ici là avec le gouvernement. Donc, c'était les principales craintes. Ils nous ont montré qu'ils étaient des investisseurs, entre guillemets, très sérieux. Ils ont respecté leurs paroles et qu'il appartient maintenant à l'État d'assurer la stabilité de cet investissement et surtout de restituer la TVA. Voilà un peu. Et après, il y a eu aussi une autre information, c'est le changement du management. Donc, l'ingénieur Liu Atum n'est plus à Kibali. Il a été remplacé par Cyril Mutombo. Donc, voilà en gros ce qu'a été... les informations livrées par Kibali.
Merci Israël Moutala pour cette expertise et pour tous ces commentaires et analyses dans Panorama Économique. Ce numéro qui est terminé, mais retrouvez Panorama Économique toute la semaine sur www.radiookapi. Israël, merci et bon week-end.
Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.
À vous aussi, chers auditeurs. Très bonne fin de semaine. À toutes et à tous. Au revoir.